Merci beaucoup Marie-Alix Autet. Prochain journal sur France Culture à 9h. Bonjour à tous, bienvenue dans le secret des sources.
Il me suffit de te voir, je te regarde et je vois immédiatement un journaliste qui va me dire qu'il a une intuition.
J'ai vérifié certains
points. Veux-tu savoir ce que je pense des journalistes qui ont des intuitions?
This is Bob Woodward of the Washington Post.
New York Herald Tribune.
Nous avons quelques informations sur ce sujet par d'autres sources et bien sûr on veut faire des recoupements.
This is terrific stuff. Where did you get it?
Ce type est bon, il est aussi bon journaliste que tous ceux avec qui j'ai travaillé.
Le secret des sources, Frédéric Mettezo.
Bon réveil et bon week-end de Pentecôte avec le secret des sources sur France Culture et franceculture.fr avec au sommaire ce matin le sport. C'est l'un des plus gros week-ends sportifs de l'année qui débute. Voyez plutôt, premiers échanges de balles demain à Roland-Garros, Grand Prix de Formule 1 de Monaco, dernière journée de la saison régulière du top 14 de rugby, dernière journée des championnats de France de football en France et en Angleterre, tour cycliste d'Italie, 500 miles d'Indianapolis. Voilà le sommaire, mais au fait, comment travaillent les journalistes sportifs? Comment rendre compte de ces événements où règne certes l'émotion et la beauté du sport, mais aussi l'argent, la com et parfois la triche? Un journaliste sportif peut-il réellement enquêter sur les coulisses des clubs de football ou de grandes compétitions qu'il suit toute l'année? Quelles sont ses sources? Le journaliste sportif est-il obligé d'être chauvin? D'ailleurs, le journaliste sportif est-il un journaliste comme un autre? Pour en parler ce matin sur France Culture, Fanny Lechevestrier, journaliste à France Bleu 107.1 à Paris, vous commentez les matchs de rugby du Stade Français. Laurent Jaoui, rédacteur en chef au service des sports de Canal+. Éric Métro, directeur littéraire chez Flammarion, ancien journaliste passé notamment par L'Équipe, Le Sport, L'Équipe Mag, L'Équipe TV. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres d'enquête sur le sport et ses coulisses. Avec nos correspondants en Angleterre et en Italie, nous verrons comment travaillent les journalistes sportifs dans ces deux pays fous de sport. Nous serons également rejoints par le sociologue Jean-Marie Charon et par notre chroniqueur multimédia Thibaut Henton. Le coup de fil à l'étranger, en fin d'émission, un peu avant 9h moins 5, Omar Waman, notre correspondant au Liban. Il est allé à la rencontre de migrants qui veulent embarquer pour l'Europe. Le secret des sources est à commenter en direct sur Twitter et Facebook.
Allez! Allez, Guy, André Boniface! André Boniface, Darouille! Oui! Pleurez, mes amis, pleurez!
Allez, petit! Allez, petit! Cachapet! Oui! Oh, oh! Je vous le dis! Ça, c'est du rugby!
Ah, c'est pas possible! Ah, c'est pas croyable qu'il accorde pénalty là-dessus! Mais c'est invraisemblable à 3 minutes, 2 minutes de la fin de la partie! Alors ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Foot, vous êtes un salaud!
En ligne de Rome, l'un de nos envoyés spéciaux, Jacques Vendroux.
Et ce match Italie-République d'Irlande, eh bien, aura lieu ici à Rome à 21h. Depuis 1988, eh bien,
l'équipe de la République.
On refait le match, on refait le match. Ce soir sur RTL.
Le secret des sources.
Roger Couder, Thierry Roland, Jacques Vendroux, Eugène Saccomano dans leurs œuvres, mais on aurait pu rajouter ceci.
Avec un ballon pour Scott Lavalla. Scott Lavalla qui est un peu pris et protégé par Meyer Bosman. Les Parisiens vont pouvoir dégager sans doute ce ballon en touche. Voilà, Julien Dupuis qui le récupère. Et cette fois-ci, c'est Mornestan qui dégage ce ballon en touche. Paris qualifié pour les phases finales pour la première fois depuis...
Bonjour Fanny Lechevestrier.
Bonjour.
C'est vous qu'on entend. C'était Stade Français Montpellier au Stade Jean-Bouin. Il y a une semaine tout juste. Et vous serez cet après-midi à Brive pour le dernier match du Stade Français que vous couvrez donc pour France Bleu 107.1. Fanny Lechevestrier, est-ce que les journalistes sportifs sont obligés d'être chauvins?
Non, on n'est pas obligé. Alors après, je travaille aussi dans une locale, France Bleu 107.1 à Paris, qui a un exercice particulier, donc puisqu'on suit un club de la région parisienne, donc c'est encore un autre exercice que quand on commente pour France Info, France Inter. Donc on est peut-être un petit peu chauvin, en tout cas il y a du régionalisme dans nos commentaires, effectivement. Après ce n'est pas obligatoire, le chauvinisme n'empêche pas l'objectivité, je dirais.
En même temps, vous parlez de médias nationaux, des radios amis, on peut parler des télévisions aussi. Tiens, Laurent Jaoui sur Canal+, on est obligé de se réjouir quand une équipe, quand un champion français remporte un match ou une compétition?
Alors, déjà, avant de répondre à votre question, je voudrais juste ouvrir une parenthèse, et pas du tout pour vous fâcher. Je pense que l'appellation journaliste sportif est impropre.
Journaliste,
je suis pas du tout sportif.
Qui traite de l'actualité
sportive. Ouais, je suis
sportive.
Pas du tout sportif. Vous dites pas un journaliste économiste? Il est un journaliste économique.
Absolument.
Donc moi, je préfère l'appellation journaliste de sport. Mais on peut dire journaliste sportif, même si au bout du compte, je trouve qu'il y a un petit côté péjoratif ou diminutif dans cette appellation-là, mais elle est communément répandue, donc acceptons-en l'augure. Voilà. Okay.
Alors, les journalistes de sport, ouais, doivent-ils être chauvins? Doit-on se réjouir quand une équipe ou quand un champion de notre pays s'impose dans une compétition?
Je crois qu'il faut dissocier deux choses. Il y a le commentaire, on a entendu Fanny à l'instant même. Le commentaire, on est pris par l'émotion, par le direct, par l'ambiance, par tout ce qui se passe autour de nous. Et on fait moins appel à l'analyse, on fait moins appel au cognitif. On est beaucoup plus dans l'affectif. Mais aujourd'hui, nos
dans
métiers,
le
dans le show, vous l'écrivez comme vous voulez d'ailleurs.
C-H-A-U-D, mais
ou
ça
C-H-O-W.
Peut être S-H-O-W.
Exactement, S-H-O-W. Par ailleurs, aujourd'hui, on est quand même dans un système qui fait qu'il y a des émissions d'analyse où là, très régulièrement, on s'aperçoit que le journaliste qui a commenté la rencontre est à même à froid d'apporter une analyse plus mesurée, plus tempérée. Et s'il n'est pas à même de le faire, c'est souvent un autre journaliste de sport à qui on demande de faire ce travail-là. Donc, pour répondre à votre question, il est difficile de ne pas être chauvin en direct live, mais c'est un métier, c'est l'une des branches du journalisme. Il y a d'autres choses dans ce métier, heureusement.
Éric Métro, avant de rejoindre le monde de l'édition chez Flammarion, vous étiez journaliste à L'Équipe, donc qui est un quotidien de presse écrite. Quand 48 heures après, on veut titrer sur, même si maintenant L'Équipe sort tous les jours, mais quand 48 heures après, on veut titrer sur un match, on a ce recul ou on reste encore un peu cocardier?
Dans la presse écrite, maintenant, tout a changé. Moi, j'étais à L'Équipe à une époque où Internet n'existait pas. Donc aujourd'hui, il y a l'équipe.fr, tout va beaucoup plus vite. La difficulté, c'est d'apporter quelque chose en plus, après que les gens aient vu à la télévision et lu sur Internet des news et vu des vidéos, etc. Donc, c'est aujourd'hui beaucoup plus compliqué et on est obligé d'aller chercher autre chose. On est obligé d'aller chercher, par exemple, la légende. On a vu pendant un moment L'Équipe, son slogan, c'était « Légender le sport ». Et moi, je reste un peu basique, j'interprète le mot « légende » en me disant « si c'est la légende, c'est que c'est pas la vérité ». Donc on a eu à un moment une espèce de divergence entre le métier de journaliste qui est de dire ce qui se passe et le métier de journaliste de sport, notamment dans la presse écrite, mais pas seulement, la légende, on la raconte aussi sur Canal, sur France 2, etc., sur faire vivre l'événement, faire mousser l'événement même, pour en rajouter, pour capter
l'avant-match, l'après-match.
Oui, et puis il faut inventer des histoires même quand il n'y en a pas.
Les mi-temps.
Aujourd'hui, les mi-temps, on les incarne.
Les commande.
Les gens viennent à la mi-temps faire de l'analyse. C'est d'ailleurs très marrant parce que parfois, des commentateurs qui ont écouté le débrief à la mi-temps changent un peu leurs commentaires en fonction de l'avis des consultants qui les aiguillent vers autre chose. C'est assez frappant de voir ça comme ça dans le commentaire, les variations d'une période à l'autre.
Avec une spécificité du public qui suit cette actualité, Fanny Lechevestrier, il s'y connaît à peu près autant que vous, voire mieux,
et souvent ils connaissent mieux les joueurs
qu'ils
les côtoient.
Les statistiques.
C'est ça peut-être la spécificité du journalisme sportif ou du journalisme
de sport.
De sport, c'est que le public est connaisseur et passionné. Et ce qui ajoute le problème des commentaires, on peut pas faire des commentaires à froid, sans vie, ça ne passerait pas, parce qu'ils attendent quelque chose de précis de notre part aussi.
Il y a une autre spécificité, c'est que c'est une information qui est payante. Quand on assiste à un procès d'assises, quand on assiste à un meeting politique, et vous avez tous les trois couvert des actualités autres que sportives, mais vous ne payez pas. Là, il faut payer
assister
à certaines grandes compétitions. Et le revers de la médaille, c'est qu'il faut derrière beaucoup de publicité pour rentabiliser les investissements. Dans ce cas-là, retransmettre un match de football, c'est toujours de l'information ou c'est du divertissement? Éric Métro.
Ce qui est intéressant, c'est que vous vous demandiez tout à l'heure, est-ce qu'un journaliste sportif doit être ou pas chauvin? Mais je crois que la vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que le journaliste de sport qui commente un événement doit vendre le produit, doit être le VRP d'un produit qui a été payé par son employeur. Moi, je cite juste Dominique Legloux, le grand journaliste de France Télévisions qu'on a connu à Stade 2, etc., à la grande époque, qui me disait dès 1993-94, le journalisme de sport à la télévision est mort avec l'arrivée des contrats d'exclusivité. Point barre. Et on peut pas commenter comme on commenterait sur une autre chaîne, le tournoi des destinations sur France 2, la Formule 1 sur TF1 ou maintenant sur Canal,
maintenant sur
etc.
Canal.
Comme si notre employeur n'était pas propriétaire puisqu'il a acheté les droits. Je crois que ça a tout changé.
Laurent Jaoui,
ça a changé d'abord pour une raison très simple. C'est que vous n'avez pas accès à l'événement si vous n'avez pas payé. En télévision, j'entends. Si vous n'êtes pas détenteur de droits de Ligue 1, vous n'avez le droit à rien. À une zone mixte, c'est-à-dire un endroit où les joueurs sont censés s'arrêter mais ne s'arrêtent pas. Et c'est à peu près tout. Donc aujourd'hui,
et quelques secondes d'extrait, 24 heures après.
Voilà, qu'on appelle le droit à l'information, mais qui ne vous permet pas de proposer un travail fouillé. Ça marche pour les chaînes de news, les chaînes d'information, mais pas autre chose. Aujourd'hui, la situation, c'est la suivante. Quand vous êtes en télévision et que vous êtes détenteur de droit, vous accompagnez, vous faites la promotion d'un spectacle que vous avez intérêt plutôt à magnifier. Et pour le reste, vous ne pouvez pas travailler. On en arrive à des extrémités que vous avez tous constatées, que les auditeurs ont constatées. Au mois de juillet, journal de 20h, sur TF1, à l'époque où TF1 avait la Formule 1, sujet d'une minute trente en ouverture quand il n'y a pas beaucoup d'actualité, et 20 secondes d'image sur le Tour de France. Et sur France 2, 1 minute 30 de résumé sur le Tour de France et 20 secondes d'image sur la Formule 1 reléguée en fin de journal. La réalité est forcément entre les deux.
Le prorata de tant d'informations dépend de la somme qu'on a payée. Alors précisément, les droits, les sponsors, ils sont omniprésents dans le sport. On marchandise à peu près tout et n'importe quoi. Bonjour Thibaut Henton.
Bonjour Frédéric.
La chronique image du secret des sources, la star du Real de Madrid, Gareth Bale, un ancien de Tottenham, a même déposé les droits d'un geste.
Oui, nous sommes en 2013. Gareth Bale est encore joueur du club de foot de Tottenham. Il s'apprête à être transféré au Real Madrid avec le numéro 11 et il dépose alors, à l'équivalent de notre INPI britannique, un logo inspiré de son geste de célébration sur le terrain, consistant à former un cœur avec ses mains.
C'est même pas un geste de footballeur, c'est pas un geste de sport. Hein.
Juste de célébration. Et il a beau être la risée de tout le stade, Gareth est bien décidé à la poser sur toute une gamme d'accessoires vestimentaires. Gain espéré 4 millions d'euros par an. Un 11 donc cerclé d'un cœur, l'image est un peu ancienne mais néanmoins symptomatique. On sait le rapport quelque peu obsessionnel qu'entretiennent les stars du sport avec leur image et leurs sponsors. Pour ne rien dire de la folie des sponsors eux-mêmes, bien illustrée par les derniers Jeux Olympiques en 2012 à Londres, avec le vote par le Parlement anglais d'une loi autorisant la création d'une véritable police privée des marques. Alors pour en rester aux athlètes eux-mêmes, vous vous souvenez peut-être de Marie-Josée Pérec après sa victoire au championnat du monde en 1995. Au moment de son interview, après la course, elle gigotait bizarrement. On a pris plus tard que
elle tirait son t-shirt vers l'objectif.
Voilà, on a appris plus tard que c'était parce qu'elle voulait qu'apparaissent les marques sur son polo. Le moment hors antenne où elle engueule le caméraman est visible en ligne. Petite Madeleine Matinale.
On écoute.
Écoutez, si j'ai mis ce t-shirt, c'est parce que j'ai des sponsors.
Pardon.
Parce que moi, je peux refuser de ne pas venir. Ok, non, il faut laisser, je suis désolée.
Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, Laurent Jaoui. C'est vrai qu'on sourit en se souvenant de Marie-Josée Pérec qui se contorsionne devant les caméras, je crois, d'Antenne 2,
avec
peut-être
Nelson
France
Montfort,
2 déjà, avec Nelson Montfort. On l'a dit, une compétition sportive, c'est un spectacle dans lequel on a mis de l'argent. Mais quand on est journaliste, c'est un peu antinomique. Vous n'avez pas le sentiment de vous renier, vous qui êtes des journalistes?
Bah si. Oui, votre question est simple, la réponse doit l'être également. Si, bien sûr qu'on se renie. Il y a toute une partie d'événements auxquels, encore une fois, nous ne sommes pas conviés. Nous ne sommes pas les bienvenus. Et on vous l'explique. À quelle chaîne appartenez-vous? Très bien, vous n'êtes pas détenteur de droits. On n'a pas besoin de vous. Donc, partant de là, le journalisme s'exerce autrement, différemment, mais sûrement pas autour du direct. Voilà, je ne peux pas dire mieux.
Fanny Lechevestrier, vous travaillez donc à France Bleu 107.1, c'est la radio locale de Radio France qui traite de l'actualité en Ile-de-France. Au début, la chaîne ne retransmettait pas les matchs du Stade français, elle retransmettait le PSG en football. C'est un choix marketing, économique, éditorial. Pourquoi votre chaîne a choisi un jour de retransmettre des matchs de rugby du Stade français?
Pour élargir un peu justement le panel d'auditeurs, mais si effectivement on a commencé par le PSG, c'est un choix économique et commercial pour attirer de nouveaux auditeurs, les supporters du PSG qui sont aujourd'hui. Aujourd'hui, le PSG, il ne faut pas se le cacher, c'est le club incontournable. Même si on n'a pas accès à tout, on ne peut pas ne pas y être. Il faut absolument couvrir le PSG avec pas forcément les mêmes moyens, effectivement, qu'une chaîne comme Canal+, ou qu'une chaîne comme beIN Sport. Mais il faut quand même être présent.
Les montants entre radio et télé ne sont pas les mêmes.
Voilà. Mais heureusement, nous, encore en radio, mais ça risque de ne pas durer très très longtemps. Il n'y a pas encore de droit à payer en Ligue 1, en tout cas.
Laurent Jaoui, c'est un peu ce que je voulais dire et rebondir sur les propos de Fanny. La radio vit ses dernières heures un peu sympathiques. Celle où on ne lui réclame pas d'argent pour couvrir des droits. En Angleterre, c'est le cas. Ça a été le cas sur les derniers championnats du monde de handball. Si ce sont des droits, ce sont des droits minimes. Mais il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas de droit d'exclusivité. Il y a eu un exemple.
2002, la Coupe du monde de football, RMC Radio voilà, avait eu l'exclusivité.
Payé l'intégralité. Et les autres radios commentaient les matchs devant la télé avec une bande son derrière. Et allaient faire
ensuite donner les buts avec une minute de retard.
Exactement.
Fanny Lechevestrier.
Je vois, ça commence effectivement à arriver de plus en plus. On en rediscute notamment au Paris Saint-Germain, mais on en rediscute aussi par exemple, on nous demande de couvrir mieux l'actualité du football féminin. On va à Berlin pour
les
couvrir...
Les filles du PSG étaient en finale.
Voilà, on va à Berlin couvrir la Ligue des Champions. Et bien là, ils ont demandé des droits. Donc, il y a aussi un problème.
Welcome to Match of the Day, the first of a weekly series coming to you every Saturday.
Hello, we're not normally ones to mix our sporting analogies, but you could say.
Allez, direction deux pays où le sport est roi et où les enjeux médiatiques et financiers sont encore plus énormes qu'en France. Bonjour Franck Mathevon.
Bonjour Frédéric.
Vous êtes en direct de Londres. On entend un extrait de l'émission Match of the Day. Elle a été créée en 1964. Elle est présentée par l'ancien footballeur Gary Lineker. On est également en duplex de Rome avec vous, Anaïs Feugat. Bonjour.
Bonjour Frédéric.
On va commencer avec vous Anaïs. Quels sont les sports couverts par les médias italiens? Et est-ce qu'on retrouve chez vous en Italie le même chauvinisme, ou en tout cas la même passion sur les commentaires en direct qu'en France?
Mais alors je ne vais pas vous étonner, en Italie on ne parle presque exclusivement que de calcio, le foot. C'est vraiment le sport roi avec une équipe qui est le chouchou de la moitié de l'Italie, c'est la Juventus de Turin. Et en Italie on a effectivement des journalistes tifosi, alors c'est l'expression d'un confrère français qui me l'a dit. Les tribunes de presse ressemblent souvent plus à des tribunes de supporters. Alors on m'a raconté un épisode par exemple, le derby Rome, donc AS Rome contre la Lazio, où le seul journaliste étranger présent semblait être le seul à travailler, tous les autres... suivant le match comme des supporters sans prendre de notes. Donc dans le foot, c'est vrai que en Italie, il existe ce journalisme tifosi avec une certaine collusion entre les journalistes et le club. C'est pas rare que les journalistes demandent par exemple des billets pour assister à des matchs de foot pour eux, pour leur famille, et donc il n'y a pas toujours un traitement très objectif. Ensuite, les autres sports sont vraiment plus marginaux par rapport au foot. Si vous prenez la Gazzetta dello Sport par exemple, il y a 40 pages de foot et puis 20 pages pour tout le reste. Alors dans tout le reste, on a la Formule 1, évidemment.
C'est un quotidien italien de sport.
Voilà, on a évidemment la Formule 1 avec Ferrari, on a le MotoGP avec Valentino Rossi, et puis accessoirement aussi tous les sports, les Italiens s'illustrent, la natation avec Federica Pellegrini, on a une très bonne équipe d'escrime italienne féminine, le volleyball est très populaire en Italie, et puis bien sûr on suit aussi le cyclisme avec le Giro.
C'est le Giro en ce moment. En revanche, Anaïs, on ne retransmet pas sur les chaînes de télévision les matchs du 15 italien pour le tournoi des Six Nations. Alors, c'est pas le cas en Angleterre, au Royaume-Uni. Chez vous, Franck Mathevon, on diffuse les matchs de rugby. Les journalistes britanniques non plus sont pas réputés pour leur modération, notamment la presse écrite, mais peut-être même la BBC, non ?
Oui, c'est vrai, oui, je le confirme. Alors évidemment, ici, on parle aussi beaucoup de football. Hein. La Première Ligue reste le championnat le plus riche au monde, sans doute aussi le plus attractif, le plus spectaculaire. Les médias parlent également en effet de rugby, de tennis, hein, surtout depuis l'avènement d'Andy Murray au plus haut niveau. Et puis d'un sport très anglais, le cricket, un sport dont je suis sûr, Frédéric, vous connaissez
toutes
parfaitement les règles. Voilà.
Par
évidemment,
cœur.
Les Anglais, en tout cas, sont très chauvins. Alors, je parle des Anglais, car dans les sports collectifs, chaque nation du Royaume-Uni, vous le savez, a son équipe.
Championnat à l'échelle d'Écosse, du pays, etc., etc.
Voilà, exactement, Pays de Galles, Irlande du Nord. À l'échelle du pays, les JO 2012 sont un assez bon indicateur du degré de chauvinisme des Britanniques. La huitième place d'un sujet de Sa Majesté dans un sport mineur intéressait en 2012 souvent bien plus les médias que la médaille d'or d'un Français. Et puis j'ai le souvenir, pendant les Jeux, d'une journaliste de la BBC, en effet, drapée dans un immense Union Jack pour faire ses interviews au bord du stade olympique.
Anaïs Feuga, on va retourner vers vous à Rome. Vous parliez de la Gazzetta dello Sport, c'est le grand quotidien sportif italien qui a donné le rose, du maillot rose du vainqueur du Giro. Quelle est l'offre d'information sportive chez vous? En France, on a comme grand quotidien national que l'Équipe. Il y a beaucoup de journaux sportifs en Italie?
Alors, vous avez cité effectivement la Gazzetta dello Sport, c'est le plus important. Il y a trois quotidiens sportifs, Donc, il y a le Corriere dello Sport et Tutto Sport. Donc, encore une fois, là, le foot est omniprésent et chaque quotidien a un peu ses clubs. La Gazzetta traite plutôt les clubs milanais, le Corriere est plutôt les clubs romains, Tutto Sport plutôt les clubs turinois. Ce qui fait en fait que quelquefois, les unes, le même jour, sont assez différentes d'un quotidien sportif à l'autre. Et puis, pour ce qui est... Alors, dans les quotidiens normaux,
généraliste.
La Repubblica, généraliste, La Repubblica, le Corriere della Sera, La Stampa, il y a un énorme cahier sport qui traite essentiellement de foot évidemment, mais il y a un énorme cahier sport par rapport aux journaux français. Et puis pour ce qui est des grandes compétitions à la télé, alors l'offre est assez vaste, il y a des émissions de foot à peu près, donc évidemment sur la RAI, la télé publique, sur Mediaset, c'est la télé privée de Berlusconi, il y a le groupe privé Sky qui est un acteur aussi dans les retransmissions télé. Et puis vous le disiez tout à l'heure, par exemple les deux derniers tournois destination en rugby n'ont pas été retransmis sur les chaînes hertziennes, mais sur D-Max, donc en streaming sur Internet ou alors sur un canal du digital terrestre.
Oui, il faut vraiment être passionné. Franck Mathevon, au Royaume-Uni, une grosse offre sportive dans les journaux, à la télévision, à la radio.
Oui, mais pas de journaux sportifs à proprement parler, pas de journaux spécialistes en tout cas. Mais en effet, les pages sport des grands quotidiens sont beaucoup plus denses qu'en France. Les passionnés de sport y trouvent leur compte. À la télévision, la situation est assez comparable à la France. Quelques grands événements sportifs, par exemple Wimbledon ou la Coupe d'Angleterre, sont diffusés en clair, généralement sur la BBC. La chaîne ITV a aussi droit à quelques affiches de Ligue des Champions. Mais pour l'essentiel, le foot est diffusé sur les chaînes payantes. Essentiellement Sky et BT Sports. Ces deux chaînes ont d'ailleurs payé en février plus de 7 milliards d'euros pour les prochains droits télé de la Première Ligue. Et puis, on en parlait juste au début de nos interventions, il y a l'émission Match of the Day, bien sûr, sur la BBC, chaque week-end. Un résumé de la journée de championnat, c'est l'équivalent un peu de jour de foot en France.
Franck Mathevon à Londres, Anaïs Feuga à Rome. Vous restez avec nous dans Le Secret des Sources sur France Culture. Il est bientôt 9h25.
Oui, eh bien, pelotonnez dans l'échappée, tout là-haut, sous les nuées, sous les vivats, il souffre en silence. Le silence des boyaux sur l'asphalte, il souffre moins qu'à pied tout de même, dans les calepiers. Walking, walking in the rain.
Fred Poulet sur France Culture, Walking in the Rain. Fred Poulet, par ailleurs réalisateur d'un documentaire, excellent documentaire, avec Vikash Dorasso, le remplaçant, nous rappelle Laurent Jaoui.
Une chanson des Who.
Exactement, excellente chanson d'ailleurs. Bonjour Jean-Marie Charon.
Bonjour.
Sociologue des médias, le chercheur du Secret des Sources. Jean-Marie, les journalistes sportifs peuvent-ils enquêter sur les coulisses? Là, on a parlé de ce qui se passe sur le terrain, de ce qui est assez visible, on a payé, on voit, on raconte. C'est pas facile de toucher aux vaches sacrées.
Oui, alors c'est une bonne question et il faut reconnaître d'ailleurs que on n'a pas qu'à la poser qu'aux journalistes sportifs. Je veux dire, dès qu'on est dans l'univers de l'enquête, se pose la question des journalistes spécialisés. C'est-à-dire, est-ce que ceux qui ont accès régulièrement aux sources, ceux qui ont accès au off, est-ce que ce sont les mieux placés, effectivement, pour enquêter? Edwy Plenel, souvent, avait pour habitude de rappeler, là c'est un clin d'œil pour journalistes politiques, hein, que ce ne sont pas les journalistes politiques qui ont fait sortir les affaires politico-financières, que ça a toujours été des journalistes spécialisés, parce que précisément, ils ne respectaient pas les off, les...
Il a raison.
Etc. Alors, c'est vrai qu'en plus, comme vous l'évoquiez, la question, c'est l'ambiguïté même du sujet. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est à la fois un domaine d'information, c'est à la fois, le sport est à la fois un domaine d'information, c'est un spectacle, et puis c'est le support d'une fierté nationale. Vous appuyez ça le chauvinisme tout à l'heure. Mais c'est vrai que ça complique un peu les choses. Et puis, je rajouterai encore une couche. Il faut se souvenir que le sport et les médias ont une histoire très, très particulière. La presse populaire de la fin du 19e siècle, hein, et tout particulièrement le Petit Parisien, et puis son patron de l'époque, hein, Jean Dupuis, ont considéré que dans la modernisation de la société française, des questions comme l'hygiène, mais aussi le sport, et d'ailleurs en faisant un lien entre l'hygiène et le sport, méritaient effectivement un traitement particulier.
Une promotion.
Une vraie promotion, et ça a été, je dirais, un fil conducteur dans l'activité éditoriale de ce titre, mais d'autres quotidiens populaires, que de parler du sport, d'expliquer le sport. Il faut se souvenir qu'à l'époque, les grands sports qu'on connaît aujourd'hui naissaient, définissaient leurs règles, que le public ne les connaissait pas, donc on a expliquer ça au public. Et puis, comme rien n'était plus concret que en montrant les choses, eh bien, on a organisé, les journaux organisaient les événements. Alors, c'est resté avec le vélo. On en a la trace, bien évidemment. Et on a toujours aujourd'hui, évidemment, ce lien entre l'équipe et le Tour de France. Et puis, beaucoup de quotidiens régionaux qui continuent à avoir leurs épreuves. Mais alors, il y a eu d'autres événements qu'on a moins en tête. Par exemple, les grands Paris autour de l'aviation, traverser la Manche, traverser l'Atlantique, ça a été souvent des événements montés par la presse elle-même. Et notamment,
les journalistes fabriquent l'actualité.
Fabriquer l'actualité, même chose pour les grands raids automobiles. Hein. Donc,
c'est difficile d'aller enquêter sur les coulisses de cette actualité.
D'autant que finalement, on s'est rendu compte que derrière cet aspect, je dirais, initiation, eh bien, il y avait aussi effectivement de grosses audiences. Alors c'est vrai que ces questions des audiences, on les avait bien perçues en presse populaire, on les a perçues surtout avec l'audiovisuel. Et puis, il y a un autre aspect qu'on a peut-être moins en tête, c'est que le sport peut être aussi un business qu'on associe à l'activité du média lui-même. Et là encore, on revient au groupe Amaury, l'équipe, le Tour de France,
mais
aussi bien d'autres événements sportifs. Et dans le groupe Amaury, on a un secteur particulier, une filiale particulière, Amaury Sport Organisation,
ASO,
qui est extrêmement rentable. Et si aujourd'hui le Parisien n'est pas au bord de la faillite, si l'équipe à certains moments a pu passer certains caps plus ou moins difficile, c'est parce qu'on avait ASO, la vache à lait, qui permettait de franchir ces étapes. En presse régionale, on a aussi un phénomène qui est moins connu, c'est le télégramme. C'est le journal Télégramme, exposé à la mer, hein, eh bien, qui précisément a développé toute une activité. Le Vendée Globe, par exemple, c'est le Télégramme. Et puis, par extension, alors, même dans le domaine de la culture, les Francopholies, le Printemps de Bourges, c'est le Télégramme.
Encore un petit mot?
Oui, alors peut-être sur effectivement passer à l'enquête. Comment peut-on passer à l'enquête? Ben, je crois que on a eu la question notamment autour du dopage. Et là, c'est intéressant de voir sur cette question du dopage. Finalement, les journalistes sportifs, les médias sportifs n'avaient rien vu. Ils savaient pas trop. Pendant très longtemps, c'est pas eux qui ont vraiment sorti les choses. Et quand la question du dopage, je me souviens très bien parce que j'avais suivi ça assez près à Libération, par exemple. Lorsque on a voulu traiter de cette question du dopage à Libération, on n'a pas demandé aux journalistes sportifs de Libé, est-ce que vous pouvez enquêter sur le sujet? On est allé chercher une personne de la cellule investigation de l'époque, qui était Blandine Aignan, et on lui a dit, est-ce que vous pourriez pas travailler sur ce sujet?
On en a été témoin dans toutes les rédactions de France.
Tout à fait. Et puis, il faut se souvenir, vous l'avez évoqué en creux, mais que les instances sportives se défendent. Hein. Aujourd'hui, on entend parler de boycott d'un certain nombre de journalistes parce qu'ils ont simplement pas bien traité telle équipe. Je me souviens, à un moment où j'étais dans un autre métier au ministère de la Communication, d'avoir vu des projets de loi qui nous arrivaient, qui étaient plutôt d'origine internationale, pour délimiter l'accès des journalistes aux enceintes sportives. Et là, on retrouve un élément important. Tout à l'heure, vous disiez, tel journaliste ne peut pas vraiment travailler parce que il n'est pas dans dans ceux qui sont dans un média qui a... Mais il y a aussi le fait que entre les journalistes sportifs qui sont là pour suivre l'événement, et on peut aussi considérer qu'il y a d'autres journalistes qui pourraient être là simplement pour faire un travail sur le sport. Rappelons-nous quand même que dans certaines enceintes sportives, il y a eu des problèmes. Il y a eu des accidents, il y a eu parfois des échauffourées, etc. Est-ce que ça veut dire que cette dimension-là, sous prétexte que ça ne relève pas, je dirais, du compte-rendu de l'événement sportif, ça serait des événements qu'on n'aurait pas à traiter?
Merci beaucoup Jean-Marie Charron. On va retourner à Londres avec vous, Franck Mathevon. Est-ce que la presse britannique enquête, débusque, révèle ce qui peut se passer dans les coulisses plus ou moins nauséabondes des grandes compétitions?
Bah oui, il y a une grande tradition du journalisme d'investigation ici, et puis on le voit aussi dans le sport. On peut citer l'affaire Lance Armstrong, par exemple, puisqu'on parlait de dopage. Dès la première victoire de l'Américain sur le Tour, le Sunday Times a émis des soupçons. Le journal a ensuite renouvelé plusieurs fois ses accusations, et puis après une longue bataille judiciaire, le cycliste a dû accepter un accord financier en 2013. Il a payé 300 000 livres au Sunday Times. Depuis plusieurs années également, les journaux anglais, dont le Sunday Times, encore une fois, enquêtent sur la FIFA, la corruption, les petits arrangements de son président Sepp Blatter. Alors, ce n'est pas toujours désintéressé. Dans le cas de la FIFA, les Anglais n'ont pas digéré, on le sait, d'avoir raté l'organisation de la Coupe du Monde 2018. Mais ce qui est certain, c'est que les médias britanniques se donnent les moyens de travailler sur ces sujets, les moyens d'enquêter.
Anaïs Feuga, en Italie, est-ce que les médias enquêtent avec autant d'abnégation qu'au Royaume-Uni, sur le sport en tout cas?
Oui, je pense un peu moins qu'au Royaume-Uni, mais faut quand même reconnaître qu'à la Gazzetta dello Sport, il y a un pool enquête assez fourni qui sort régulièrement des affaires dans le dopage dans le cyclisme, hein, beaucoup d'articles sur le fameux docteur Ferrari. En revanche, c'est vrai qu'il y a une espèce d'autocensure en Italie. Alors, un exemple encore dans le cyclisme avec la mort du champion Marco Pantani. La vérité, c'est qu'il est mort tout seul d'une overdose. C'est une histoire dramatiquement pathétique. N'empêche que cette thèse-là est très peu développé. Un journaliste sportif a sorti un livre pour étayer cette thèse, mais elle n'est jamais reprise, car dans un sens, entre guillemets, un peu, on tue le mythe. Et c'est vrai que les journaux, encore actuellement, en font beaucoup plus à chaque fois que la mère de Marco Pantani s'exprime et relance la thèse d'assassinat de la mafia. Donc il y a des enquêtes, mais en même temps, il y a aussi un espèce de chauvinisme qui fait que ça empêche d'aller au fond de certaines choses.
Anaïs Feuga, en direct de Rome, merci à vous. Merci également à Franck Mathevon, en direct de Londres.
Buonasera, benvenuti alla Domenica Sportiva. Oggi 4 aprile 2015, vigilia di Pasqua. Avremo tempo poi per farci gli auguri. Sono le 22:37.
Voilà, histoire de fâcher personne, on passe également un extrait de la Rai Due, l'émission La Domenica Sportiva, présentée par Sabrina Gandolfi. C'était donc pour saluer nos collègues d'Italie.
Le secret des sources. Frédéric Mettezo.
Éric Métro, ancien journaliste sportif, ancien journaliste de sport, devrais-je dire. Vous avez couvert et rendu compte d'un nombre incalculable de matchs et de compétitions. Et puis, un beau jour, vous avez enquêté sur les coulisses et notamment sur le dopage dans le vélo. C'est facile de passer du devant à l'arrière?
Ce qui est amusant, c'est que mon expérience illustre très bien ce qu'on vient de débattre. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut enquêter vraiment sur le sport quand on fait partie du milieu ou de la famille du sport?
Quand on est embedded.
Voilà, quand on est embarqué au milieu du sport business, la réponse est non. Et effectivement, cette enquête que j'ai publiée donc en 2003 chez Flammarion, cette grande enquête sur les coulisses du dopage, sur pourquoi le dopage existe, pourquoi on fait semblant de lutter contre, etc. Je l'ai faite à une période où j'étais indépendant après avoir travaillé à l'équipe télé et j'ai eu envie justement de faire mon métier de journaliste sur le sport. Et il est évident que c'est beaucoup plus simple de prendre sa liberté et de passer un an sur un ouvrage d'enquête et de le publier en n'ayant pas peur des répercussions avant, pendant et après la publication. Alors après, je vous dis pas qu'on marque des points auprès de tous les protagonistes du milieu sportif et on se fait des ennemis, mais en même temps, bon, on se fait aussi des amis qui œuvrent dans l'intérêt du sport. Moi, je sais qu'il y a plein de présidents de fédération, de responsables de la lutte antidopage ou de sportifs qui étaient très bienveillants par rapport à ma démarche et même après la publication qui avaient l'espoir que ça fasse changer les choses. Je vous rassure tout de suite, ça n'a rien changé. Oui, non, ça s'est aggravé, mais même sur la prise de conscience en France qu'il était prioritaire de préserver le sport business de cette vraie gangrène qui est le dopage parce qu'elle touche à l'essence du sport, c'est-à-dire l'authenticité de ses résultats et sa crédibilité.
Laurent Jaoui.
Ça va même un peu plus loin que ce que dit Eric parce qu'il est modeste. C'est une grande enquête qu'il a publiée il y a 12 ans et le milieu qu'a-t-il dit ? Ah ouais, mais Eric Métrou, il aime pas le sport. En fait, s'il a fait ça, c'est qu'il aime pas le sport ou c'est qu'il aime plus le sport. C'est-à-dire qu'en fait, à son insu, il est devenu un peu tricard. Enfin, il le savait même avant de le sortir, mais c'est pas ça le problème. C'est oui, mais c'est fait par ceux qui n'aiment pas vraiment le sport. Et c'est ça qui est un peu dérangeant quand même.
Il y a eu des débats publics. J'ai fait pas mal de conférences. On me dit ouais, mais en fait, en gros, vous crachez dans la soupe. Et moi, c'est une phrase qui me rend fou furieux parce que je me dis mais attendez, quelle soupe ? Qui me sert la soupe ? À qui je la sers ? Il y a pas de soupe. Je veux dire, c'est que les gens pensent que quand on aime le sport, on ne le critique pas, alors que c'est exactement le contraire. Et si aujourd'hui le sport business est en train, je pense moi, d'aller à terme à sa perte par sa surcommercialisation et par cette surenchère de l'aide médicale à la performance, à la préparation, etc. Hein, et on pourrait parler du dopage dans le foot, on pourrait parler du dopage dans le tennis, dans des sports où on n'attaque jamais parce que les enjeux sont colossaux. Hein, on parlait de l'Italie tout à l'heure. Bah, l'affaire de la Juve, où il y avait un dossier épais comme l'immeuble de Radio France. Excusez-moi, mais en deuxième instance, il y a une sorte de non-lieu parce qu'à un moment, c'est l'Empire Agnelli, parce que c'est le football, c'est le calcio.
Et la Juve et considère que les deux titres qu'on lui a retirés lui appartiennent. Voilà. Et compte ces deux titres dans son palmarès global. Ils en sont à 33 titres de champion.
Fanny Le Chevestrier, on pourrait dire que vous êtes en quelque sorte embedded avec le stade français. Quand on est embedded, est-ce qu'on a du off, du vrai off, comme en politique? Est-ce qu'on peut voir des joueurs, je ne sais pas, prendre un café avec eux, échanger des SMS? Ou est-ce que la communication est aussi verrouillée qu'on veut bien nous le faire
croire? Non, dans le rugby, on n'en est pas encore dans le monde du football. Et pour comparer,
même au stade français, qui est déjà une belle machine.
Non, ça reste, il y a encore un certain esprit amateur, même si on va aller vers une professionnalisation et des canaux de communication de plus en plus restreints. Aujourd'hui, on n'en est pas du tout là. On a accès, nous, notre travail, effectivement, en cours de match, c'est les commentaires les jours de match, mais toute la semaine, on peut travailler avec le club, avec les joueurs, avec les entraîneurs. Là, effectivement, il y a du off. Après, je ne dis pas qu'on peut sortir des gros dossiers et revenir le lendemain tout sourire,
comme si de rien n'était. D'ailleurs, j'ai dit embedded, j'aurais dû dire embarquer. Eric Métro.
Oui, une précision sur l'accès aux sportifs, parce que bon, évidemment, l'enjeu d'un journaliste, c'est l'accès aux sources. Les sources principales, c'est les présidents, les entraîneurs, je veux bien, mais c'est aussi les athlètes. Et un souvenir, il y a une trentaine d'années, c'est quand même pas si loin, quand on suivait l'équipe de France, le Paris Saint-Germain, Bordeaux, qui étaient les grands clubs majeurs, mais un quart d'heure après le coup de sifflet final, on était dans les vestiaires, avec les joueurs. Alors, c'était un peu le souk, on était 20 journalistes, ils étaient en train de sortir de la douche, de décroter leurs chaussures, mais on leur parlait totalement librement, et après, ils disaient, bon, on va boire un pot, bah, demain, viens manger chez moi. On pouvait avoir accès. Moi, j'aimerais bien savoir quel est le dernier journaliste qui a bu un pot avec Raphaël Nadal,
avec Djokovic,
ou qui a pu parler à un pilote de Formule 1 en dehors des conférences encadrées par les instances du sport et tout. Et ça, c'est un vrai problème.
La période charnière, c'est la fin des années 90, début des années 2000, avec l'arrivée des attachés de presse, des directeurs de communication. J'ai connu l'époque où on rentrait des déplacements de l'équipe de France ou du Paris Saint-Germain avec les joueurs en avion. Vous imaginez aujourd'hui comment c'est impossible? On était dans les mêmes avions. Alors ils nous en voulaient parce que c'était toujours un peu long pour envoyer la production pour le lendemain et les joueurs avaient envie de rentrer. On se faisait siffler, on allait au fond de l'avion, mais on les voyait jouer au poker, fumer des cigarettes pour certains d'entre eux. Ça aujourd'hui, c'est plus. Totalement inenvisageable. Ça ne peut plus exister.
Ça n'existe plus. Thibaut Henneton, on va parler à présent dans votre chronique multimédia d'autres journalistes qui traitent de l'actualité sportive, des journalistes sport bien particuliers puisqu'ils travaillent pour des sites web, disons, L'équipe.fr, sport.fr, sports.fr, sport 365 ou sport 24. Et à leur façon, Thibaut, ils sont aussi en compétition.
Et féroce avec ça, une compétition à plusieurs niveaux pour être les premiers à sortir l'info, pour être référencé par Google Actualité, pour le Ramdam, mieux connu sous le nom de Buzz, pour le clic donc, c'est corrélé, et finalement pour l'embauche, la titularisation, enfin, peut-on imaginer?
Cette compétition à plusieurs niveaux pèse évidemment sur les plus précaires, pigistes, parfois même auto-entrepreneurs, pour ne rien dire des stagiaires, employés donc par des sites web pour assurer les retransmissions en direct des événements sportifs, les fameux live. En 2009, dans un article du Monde intitulé « Les forçats de l'info », Xavier Ternisien leur tirait le portrait. Bien, il n'a pas pris une ride. La situation est peut-être pire aujourd'hui. Alors certes, il y a longtemps qu'une partie des journalistes est abonnée au desk, comme on dit. De nombreux journalistes d'avant le web ont pu commencer leur carrière les fesses vissées à leur fauteuil, les yeux rivés sur le téléscripteur, réécrivant des dépêches des agences de presse. Et si Internet a amplifié le phénomène, c'est en y ajoutant de nouvelles dimensions qui rendent la tâche plus usante encore pour certains que j'ai eu au téléphone. Et dans le domaine du sport, c'est plus criant encore. Dès le départ, le reportage sur le terrain est tout simplement exclu. Faute de moyens, réservés aux grosses écuries comme l'équipe ou les chaînes de télé, faute d'utilité, on est aussi bien devant son écran à regarder la retransmission, on a même les ralentis. Faute d'intérêt du public aussi, dit-on, à quoi bon s'embêter quand la moindre petite actu sur la vie extrasportive du footballeur Cristiano Ronaldo génère plus de clics qu'une enquête un peu fouillée sur, mettons, l'évolution de son jeu en contre depuis sa première saison au Sporting Portugal. Et puis, il y a Google. Google Actu, plus précisément, qui référence les sites d'information et hiérarchise leur contenu. J'ai mené une petite expérience hier en préparant cette chronique, j'ai actualisé à 5 minutes d'intervalle la page de Google Actu consacrée au sport. Hier, la grosse information du jour, que dis-je du matin, car dès midi on était passé à autre chose, au tirage au sort de Roland-Garros en l'occurrence. Hier matin, donc, l'info principale, c'était le transfert hypothétique de ce même Cristiano Ronaldo du Real Madrid au Paris Saint-Germain pour une somme hypothétique, toujours mais record, de 125 millions d'euros. Alors, à l'instant T, une dépêche du Figaro Sport était en tête, sous forme de question. Une offre de 125 millions d'euros pour Cristiano Ronaldo ? 5 minutes plus tard, c'est le site sports.fr qui avait ravi le Graal de la première place sur Google avec un titre qui cette fois ne s'embarrassait plus d'un point d'interrogation. Paris est prêt à mettre 125 millions d'euros pour Cristiano Ronaldo.
En 5 minutes, c'est devenu une quasi-réalité.
Et qu'importe si l'on apprend en lisant la brève en question qu'il ne s'agit que d'une rumeur lancée par un quotidien espagnol, à prendre au conditionnel. Donc au diable, la véracité, seul le clic compte. Et c'est d'autant plus vrai dans le monde du sport où la communication est plus verrouillée qu'ailleurs et le nombre de sources limité. D'autant, il faut donc parier sur autre chose que l'info et le web, grâce au réajustement permanent qu'il permet, autorise à parier davantage sur l'emballage que sur l'info elle-même. 10 minutes plus tard, le Figaro Sport était repassé en tête. Alors cette expérience, petite expérience, souligne en creux le rôle de l'ombre des référenceurs. Derrière les éditeurs, les journalistes qui écrivent, relisent et publient, souvent seuls et quitte à corriger plus tard les éventuelles erreurs, un rôle primordial est joué par le SEO en anglais. SEO pour Search Engine Optimization, soit l'optimisation des titres et des URL, les adresses web, des articles, pour les moteurs de recherche.
Il faut être Google-friendly.
Exactement. Les responsables du référencement, ce sont des gens qui vont donc, plusieurs fois pour un même papier, reformuler le titre et l'URL afin qu'il remonte dans le flux de Google. Le site sports.fr semble s'être fait une spécialité de la chose. Il brasserait 170 000 visiteurs uniques par jour. Alors, génial, on se dit, cercle vertueux de la concurrence, certains y arrivent. À eux donc les promesses d'embauche ? Eh bien, non. Un bon référencement sur Google peut bien attirer quelques sponsors. Les sous serviront surtout à renflouer les caisses. Chez de nombreux sites d'infos sportives, les plans de départ se multiplient, les réduisant au rôle de simples vitrines. Sport.fr, par exemple, est une vitrine de Newsweb avec ParisMatch.fr et Europe1.fr qui tous appartiennent à Lagardère Active, le pôle audiovisuel et presse de Lagardère. Alors, rassurez-vous, cependant, l'audience a beau ne pas tenir ses promesses, on demandera toujours aux journalistes qui restent d'être compétitif.
Thibaut Henneton pour la chronique Réseau à retrouver sur franceculture.fr. Je m'adresse à la collectivité. Il y a de moins en moins de journalistes sportifs qui se déplacent sur les grandes compétitions.
Il y a de moins en moins d'argent dans les journaux, il y a de moins en moins d'argent dans les sites web. Donc oui, bien sûr, beaucoup de papiers se font du bureau en regardant la télé, là pour le coup qui a payé. Et c'est la seule source d'information. C'est inquiétant, mais les journalistes se déplacent de moins en moins. Eric a travaillé à l'équipe, a connu l'époque où l'équipe était envoyait deux à trois journalistes par match quand ça le nécessitait.
Ligue 1, ouais.
De Ligue 1. Ça a totalement disparu.
Fanny Le Chevestrier, le Stade français, donc équipe de rugby francilienne, n'est pas suivi par énormément de médias finalement.
Non, très peu suivi. Ils aimeraient d'ailleurs être plus, c'est peut-être un appel, mais non, très peu suivi. Après, c'est aussi la force de ceux qui suivent régulièrement. On est connu et c'est comme ça aussi qu'on va avoir du off, qu'on va avoir des informations en allant sur le terrain. Et voilà, une radio qui ne va pas sur le terrain, elle meurt.
C'est pas une radio. Enfin, et on vous retrouve donc cet après-midi sur l'antenne de France Bleu 107.1 pour le match Brive Stade français. Merci Fanny Le Chevestrier, journaliste à France Bleu 107.1 Paris. Merci Laurent Jaoui, rédacteur en chef au service des sports de Canal+. Merci Éric Métro, désormais directeur littéraire chez Flammarion.
Le secret des sources.
Dernier rendez-vous du Secret des Sources sur France Culture. On est avec Omar Waman. Bonjour Omar.
Bonjour Frédéric.
Vous êtes en direct de Beyrouth, correspondant de France Culture au Liban et au Moyen-Orient. On entend la mer derrière nous. Omar, c'est vous qui avez enregistré ce petit clapot. Où sommes-nous précisément ?
Nous sommes sur la pointe de la péninsule de Bodrum, au sud-ouest de la Turquie, un lieu tout simplement exceptionnel. Ce que vous entendez, vous l'avez dit, c'est la mer qui s'offre à nous. Et en face, à 4 km à peine, on distingue parfaitement l'île grecque de Kos. C'est le rêve de tous les migrants qui viennent par centaines tous les jours à Bodrum pour tenter la traversée sur des embarcations de fortune.
Oui Omar, vous avez choisi finalement de ne pas aller sur les côtes italiennes ou dans ces pays qui accueillent des migrants. Vous êtes allé voir les migrants à leur point de départ. Vous avez en quelque sorte inversé la focale. Qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui vous a conduit à faire ce reportage ?
J'ai voulu aller sur la côte turque pour suivre leur périple, tout simplement, depuis leur arrivée à Bodrum et leur arrivée à Kos. Donc j'ai passé plusieurs jours sur cette côte turque. Vous savez qu'en Turquie, il y a 2 millions de réfugiés syriens.
2 millions.
Des Syriens qui pensaient que leur exil était temporaire. Et au bout de 4 ans de guerre civile, une guerre impitoyable, ils ont décidé de partir. Et donc ils risquent leur vie, ils partent souvent en famille avec des enfants.
Ces candidats à l'exil, ce sont des gens qui parlent facilement. C'est facile de les interviewer, de leur faire raconter leur histoire, ou au contraire, ce sont des gens qui se cachent ?
Alors, à Bodrum, non. C'est plus facile à Kos une fois qu'ils sont arrivés. Mais à Bodrum, c'est très difficile de les rencontrer, très difficile de leur parler. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé à la gare routière, tout simplement. J'ai guetté tous les bus en provenance d'Istanbul et ensuite je suis allé à leur rencontre. Ils sont très facilement reconnaissables, ils descendent du bus, ils ont l'air perdus. La première chose qu'ils font, ils téléphonent, ils appellent leur passeur qu'ils ont déjà contacté à Istanbul. Donc quand ils arrivent à la gare routière, ils passent un coup de fil. Donc je suis allé les voir, j'ai essuyé de nombreux refus car ces passeurs leur disent d'être le plus discret possible, de ne parler à personne. Mais finalement, j'ai pu convaincre plusieurs d'entre eux et notamment deux jeunes médecins syriens. Ils m'ont parlé, ils venaient de Raqqa et de Homs et depuis ils ont traversé pour 1000 dollars chacun. Et ils sont à l'heure où je vous parle déjà à Athènes.
Omar, vous avez vu ces passeurs, est-ce que vous vous êtes senti observé en quelque sorte ?
Oui, j'en ai vu plusieurs parce que ces deux jeunes m'ont fait confiance et m'ont donné l'adresse de l'hôtel où les passeurs les attendaient. Et ces passeurs étaient au nombre de deux jeunes également, syriens, très agités, stressés. Ils ont demandé qui j'étais. J'ai dit que j'étais journaliste. Et là, ils ont refusé tout net de me parler. Ils ont dit aux deux candidats au départ que ma présence pouvait faire capoter la traversée, que je pouvais attirer l'attention de la police turque. En fait, c'est un réseau mafieux qui opère dans la clandestinité la plus totale. Et les passeurs risquent la prison si la police leur met la main dessus. Du coup, j'ai quitté l'hôtel pour ne pas poser de problème aux deux jeunes médecins que j'ai revus plus tard dans le centre-ville.
Omar Waman, correspondant de France Culture au Liban. J'ajoute que votre reportage réalisé à Bodrum est à réécouter sur le site de France Culture. C'est le choix de la rédaction du lundi 18 mai. C'est la fin du Secret des Sources, mais le débat continue sur Facebook, Twitter et franceculture.fr où vous pouvez réécouter cette émission. Merci à Nathalie Lopez et Mathilde Wagman qui m'ont aidé à préparer cette émission. On embrasse Mathias Mégy, absent cette semaine. Une émission réalisée par Vincent Abouchard avec à la prise de son Jean-Guilain Meige. À 9h05 sur France Culture, après le journal, vous retrouverez Alain Finkielkraut pour réplique aujourd'hui, politique de Maurice Blanchot avec les philosophes Jean-Luc Nancy et Michel Suria. Très bonne journée à tous à l'écoute de France Culture.
peut-être la spécificité du journalisme sportif ou du journalisme
de sport,
c'est que le public est connaisseur et passionné. Et ce qui ajoute le problème des commentaires, on ne peut pas faire des commentaires à froid, sans vie, ça ne passerait pas, parce qu'ils attendent quelque chose de précis de notre part.
Le journalisme de sport à la télévision est mort avec l'arrivée des contrats d'exclusivité. Et on ne peut pas commenter comme on commenterait sur une autre chaîne, le tournoi des destinations sur France 2, la Formule 1 sur TF1 ou maintenant sur Canal,
maintenant
etc.
Sur Canal+.
Comme si notre employeur n'était pas propriétaire puisqu'il a acheté les droits. Je crois que ça a tout changé.
Et en Italie, on a effectivement des journalistes tifosi. Alors c'est l'expression d'un confrère français qui me l'a dit. Alors on m'a raconté un épisode, par exemple, Derby Rome, donc AS Rome contre la Lazio, où le seul journaliste étranger présent semblait être le seul à travailler, tous les autres suivant le match comme des supporters sans prendre de notes.